Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi 21 juillet 2016, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ses auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par les journaux, suivi du commentaire, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et bien, on vous présente le rappel de l'actualité. Après, vous pouvez écouter la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Belgique est sûre que la valeur des exportations et des importations avec l'Indonésie connaîtra une croissance dans l'année à venir. ASEAN SITF discute la sécurité des drogues par voie maritime à Batam. L'Indonésie offre le développement de la nouvelle ville industrielle en Chine. Merveilleuse Indonésie a remporté 2 prix à Sydney. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Belgique continuent à intensifier la coopération dans divers domaines, en particulier dans les domaines social, culturel, politique, économique et touristique. Concernant la Journée nationale belge qui est célébrée chaque année le 21 juillet, l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, Patrick Herman, a affirmé à la Radio République Indonésie à Jakarta que la coopération économique entre l'Indonésie et la Belgique sont susceptibles d'augmenter. Même, Patrick est sûr que la valeur des investissements entre les deux pays augmentera.
So the trade is $1.5 billion. Indonesia exports for $1 billion.
La valeur du commerce entre la Belgique et l'Indonésie a atteint 1,5 milliard de dollars. Les exportations de l'Indonésie ont atteint 1 milliard de dollars chaque année et sont encore en croissance assez rapide en 2014 et sont en légère croissance en 2015. Mais la valeur de ces exportations est un peu différente dans le commerce international. L'exportation belge a atteint 500 millions de dollars, plus ou moins croissance très lente et pas du tout développée. La tendance est très bonne, surtout pour l'Indonésie, et nous sommes confiants que la tendance va se poursuivre. En outre, Patrick Herman a expliqué que la croissance de l'investissement pour les investisseurs belges qui investissent en Indonésie continue d'augmenter, de sorte que, selon Patrick, l'Indonésie est un pays qui est très significatif pour la Belgique pour un bénéfice mutuel dans l'amélioration de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, a noté 80% du trafic de drogue par mer se produit souvent dans toutes les parties du monde, y compris la zone de l'ASEAN. En Indonésie, la contrebande par voie maritime ne peut pas être séparée de la condition géographique, de sorte que ceux qui appliquent la loi dans le domaine des stupéfiants de l'ASEAN se sont entendus sur la nécessité d'établir le groupe de travail d'interdiction de ports maritimes de l'ASEAN, ASEAN SITF. La première réunion de l'ASEAN SITF est tenue les 20 et 21 juillet 2016 à Batam sur la base du mandat de la réunion d'ASOD et encouragée par les ministres de l'ASEAN en charge de la question des drogues en octobre 2015. Le directeur de l'Agence nationale des drogues, le commissaire général Boudi Wasiso, au cours d'une conférence de presse à Batam mercredi, a déclaré que cette réunion a une signification dans le renforcement du secteur d'interdiction du port d'Indonésie à proximité des faits trafic de drogue par voie maritime. La condition géographique d'Indonésie est très préjudiciable à la résistance d'un pays, mais extrêmement rentable pour les villes des stupéfiants, y compris Batam, Medan et Kalimantan Est. Waseso a ajouté, l'Indonésie dans la réunion ASEAN SITF introduisait le concept et le mécanisme d'interdiction globalement en souhaitant que l'Indonésie soit encore modèle pour d'autres pays membres de l'ASEAN. L'Indonésie offre le développement de la nouvelle ville industrielle à l'investisseur chinois China Fortune Land Development, CFLD. Lors d'un entretien avec le ministre de l'Industrie, Saleh Hussein, comme affirmé le directeur général du développement des zones industrielles du ministère de l'Industrie, Imam Haryono, mercredi à Jakarta. Selon Imam, CFLD possède 5 avantages qui peuvent être profités pour développer la nouvelle zone industrielle en Indonésie, à savoir la capitale, l'expérience, la marchandisation, l'accès et l'innovation. Ainsi, le gouvernement va accommoder l'investissement ayant pour la valeur de 100 millions de dollars américains en Indonésie. À partir d'offrir 14 zones industrielles hors de Java étant développées, jusqu'à les zones industrielles plus proches à l'île Java qui commencent d'être développées, par exemple Mesuji, Kendal, JIIPE, Gresik, bien qu'il ne fixe pas encore l'allocation de développement spécifiquement, CFLD s'engage de choisir l'Indonésie comme pays de priorité. Ce retard, voici l'interview avec l'ambassadeur de la Belgique Indonésie, Patrick Herman, sur la journée nationale belge.
Chers fidèles amis, maintenant je suis avec l'ambassadeur de Belgique Indonésie, M. Patrick Herman, pour l'interviewer à l'occasion de la journée nationale de la Belgique. Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Bonjour.
Monsieur l'ambassadeur, à propos de la journée nationale de la Belgique, pourriez-vous nous parler et expliquer comment la situation actuelle à la Belgique,
La situation actuelle de la Belgique est intéressante. Je crois que personne en Indonésie n'ignore ce qui s'est passé en mars 2016, il y a 4 mois, à Bruxelles et à côté de Bruxelles, avec des attentats qui ont causé la mort de près de 40 personnes et aussi qui ont fait des dizaines et des dizaines de blessés. Beaucoup de gens qui sont encore à l'hôpital, qui souffrent encore dans leur chair, qui resteront marqués ou bien physiquement ou bien psychologiquement pour le reste de leur jour, en ce compris aussi une famille indonésienne. Et en cette fête nationale, en ce jour de célébration, nous voulons aussi avoir une pensée pour les victimes belges et autres du terrorisme en Belgique, en France aussi, ou en Indonésie et dans le reste du monde. Mais c'est aussi une Belgique qui reste optimiste. C'est une Belgique qui célèbre son 186e anniversaire. C'est un pays qui est mûr, c'est un pays qui a traversé des guerres, qui a traversé déjà des périodes de terrorisme, qui a traversé des périodes de tensions énormes et qui a montré énormément de résilience. La résilience, pour l'instant, est aussi une résilience économique. Comme l'Indonésie, la Belgique a traversé plutôt bien les crises économiques des dernières années. L'économie continue à grandir. Nous pouvons à peine rêver de chiffres de 5 ou de 6% ou de 7% de croissance comme l'Indonésie ces dernières années, mais elle continue à grandir et le gouvernement actuel aussi continue à créer de l'emploi. Ceci dit, nous avons d'énormes défis dont nous savons que nous devons les régler. Ce sont les inégalités sociales, c'est le défi du chômage, c'est aussi le défi d'une radicalisation croissante d'une partie de la population belge. Je ne parle pas d'un groupe religieux en particulier, d'une colère, d'un ressentiment qui est de plus en plus important et que nous devons apprendre à combattre au travers de mesures sociales, au travers de l'éducation, au travers d'un dialogue national. Donc c'est un pays qui se pose des questions, c'est un pays qui a souffert, mais c'est aussi un pays qui reste optimiste. Nous ne devons pas non plus oublier que Bruxelles n'est pas que la capitale de la Belgique, Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe. Comme vous savez, là aussi, ces dernières semaines, il y a eu un tremblement de terre, pas un vrai tremblement de terre, mais un tremblement de terre institutionnel. L'Europe va changer, l'Europe va continuer à avancer, Bruxelles restera au centre de la construction européenne, mais nous devons aussi réinventer l'Europe, une Europe plus proche des citoyens, une Europe plus proche des gens, une Europe plus proche de leurs soucis quotidiens, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient liés à leurs conditions de vie, à leur environnement de vie, liés à la sécurité. Donc, beaucoup de défis, mais la Belgique en a connu beaucoup d'autres par le passé. Donc, c'est une fête nationale encore un peu triste, 4 mois après les attentats, mais c'est aussi une fête nationale tournée vers l'avenir et l'optimisme.
Ok, monsieur, vous allez tout à l'heure sur les c'est maintenant en Belgique, c'est encore triste. Est-ce qu'il y a pour la campagne, ici en Russie aussi, le janvier, c'est un an aussi frappé par le terrorisme. Est-ce qu'il y a le plan spécifique pour surmonter la menace de violence et de terreur? Est-ce qu'il y a la coopération avec l'ONU ici pour ça?
Oui, deux choses. Certainement deux coopérations. Comme vous le savez, le terrorisme n'est pas un phénomène qui peut être combattu dans un seul pays. C'est un phénomène qui comme les nuages de pollution ou comme d'autres phénomènes liés à l'environnement ne s'arrêtent pas aux frontières. On ne peut pas arrêter la pollution aux frontières, on ne peut pas véritablement arrêter le terrorisme aux frontières. C'est un problème global, c'est un problème qui existe pour l'instant sur les 5 continents et c'est un problème qui doit être combattu sur les 5 continents en même temps, ensemble, en coopération, en coordination. Cela appelle 2 éléments. Un, l'échange d'informations et l'échange d'expériences, l'échange de connaissances en matière de lutte contre le terrorisme, en matière d'enquête, en matière de police, mais aussi en matière de répression, en matière de lutte contre la criminalité. Et ça, c'est important et je crois que nous avons là plusieurs projets aussi. Que ce soit dans le cadre de l'ASEM, qui a tenu son sommet à Ulaanbaatar en présence du vice-premier ministre Didier Reynders et du vice-président Kala la semaine dernière. Nous participons ici aussi à un ensemble de conférences, comme celle qui aura lieu à Bali le mois prochain, organisée par l'Indonésie, où nous serons. Nous avons des échanges aussi entre les polices, entre les unités antiterroristes des deux pays. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'expérience indonésienne sur la tolérance, sur la coexistence, sur la lutte contre la radicalisation par l'inclusion, par l'écoute, par l'entente et aussi par l'action de groupes comme Nahdlatul Ulama, comme Muhammadiyah ici en Indonésie. Et là, nous voulons aussi apprendre pour le bénéfice de nos propres communautés en Belgique de la part de l'Indonésie, comment nous pouvons aussi créer des dialogues intranationaux entre les différentes religions et au sein des différentes religions pour combattre le radicalisme, pour combattre la haine et pour construire quelque chose ensemble.
Et maintenant, c'est pour les coopérations socio-économiques et culturelles qui sont déjà établies. Pourriez-vous nous expliquer quels aspects et secteurs qui ont la tendance satisfaisante pour les deux côtés? Et est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur les questions de Brexit, est-ce que c'est pour déranger ces coopérations avec l'Indonésie et la Belgique?
Oui, les coopérations sont très importantes. Et comme vous parlez du Brexit, il faut rappeler aussi qu'elles ne se passent pas uniquement d'un point de vue bilatéral, mais aussi au travers de la coopération entre l'Union européenne, dont la Belgique est un des États membres, et l'Indonésie, avec énormément de choses qui se font dans le domaine du film, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la création artistique, dans le domaine de la création littéraire. Et l'année prochaine sera une année absolument exceptionnelle pour la relation entre la Belgique et l'Indonésie dans ces domaines. Nous aurons le Festival Europalia, qui sera ouvert à Bruxelles le 10 octobre 2017. Nous parlons de 300 événements, nous parlons de 300 salles de théâtre, salles d'exposition, salles de musique. Nous parlons aussi, probablement, nous l'espérons, de près d'un million de visiteurs. Une expérience unique en termes de présence de la culture et de l'art indonésien à Bruxelles, en Belgique, et dans l'ensemble de l'Europe du Nord, parce que parmi ces 300 ou ces 400 ou ces 500 événements, beaucoup auront lieu aussi juste à côté de la Belgique, dans le nord de la France, dans le sud des Pays-Bas, dans l'ouest de l'Allemagne. Nous espérons qu'au-delà des grandes expositions que nous aurons sur le patrimoine indonésien, Sriwijaya, Majapahit, les expositions que nous aurons sur les peintres indonésiens du 19e siècle et du 20e siècle, les expositions que nous aurons sur l'histoire de l'Indonésie, sur la culture, mais aussi sur le wayang, sur le gamelan, sur tout un ensemble de formes d'expression indonésiennes qui sont souvent mal connues en Europe. Nous voulons aussi créer de véritables échanges qui concerneraient des artistes eux-mêmes, donc des résidences, des artistes qui iraient travailler, qui iraient créer des œuvres en Belgique, des étudiants aussi, des écoles, parce que nous pensons que célébrer l'art, ce n'est pas seulement célébrer l'art d'hier ou célébrer l'art d'aujourd'hui, mais c'est aussi construire l'art et les relations artistiques de demain. Et donc, dans la dimension d'Europalia, et comme nous le faisons déjà, nous ne voulons pas seulement célébrer des artistes existants, mais nous voulons aussi créer de nouvelles générations d'artistes en mettant des artistes belges, des artistes européens et des artistes européens, qu'ils soient adultes ou que ce soit encore des jeunes, des enfants, dans une situation où ils peuvent s'enrichir de la culture de l'autre.
Ok, peut-être si on peut unifier. Peut-être c'est la dernière. Pourriez-vous décrire l'Indonésie, comment l'importance de l'Indonésie pour la Belgique?
L'importance de l'Indonésie pour la Belgique, et je crois que je vais un peu retourner aussi à la même image que pour la culture. Le passé est important. Nous avons une très très longue histoire. Nous avons maintenant 66, bientôt 67 ans de relations diplomatiques. Nous avons une relation intense en matière économique, en matière politique, en matière culturelle, en matière scientifique, en matière d'éducation, mais surtout ce que nous avons ici et ce qui fait l'importance de l'Indonésie, c'est le potentiel énorme. Simplement parce que, aussi importante que notre relation économique puisse être ou technologique puisse être à ce moment, elle est relativement réduite quand nous la comparons avec nos relations avec beaucoup d'autres États en Asie du Sud-Est, certains d'entre eux beaucoup plus petits que l'Indonésie, et beaucoup d'entre eux avec des perspectives de développement qui ne sont pas aussi grandes que l'Indonésie. Donc l'Indonésie est importante parce que nous avons un milliard et demi d'échanges commerciaux par an, ce qui n'est pas rien en euros, ce qui n'est pas rien en dollars, mais elle est importante aussi parce que le capital, les possibilités, les opportunités restent encore largement sous-utilisées. L'Indonésie peut exporter beaucoup plus vers la Belgique et la Belgique pourrait exporter plus vers l'Indonésie. Plus d'entreprises belges doivent investir ici dans le futur et nous espérons qu'un nombre croissant, même s'il n'y en a pas encore à ce stade-ci, d'entreprises indonésiennes qui vont passer à la vitesse supérieure dans leur développement, investiront en Europe. Donc un présent important mais un futur qu'il est encore plus parce qu'il y a encore une marge énorme de développement pour nos relations économiques, pour nos relations commerciales, pour nos relations technologiques et scientifiques.
Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir.
Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanté, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sixième longtemps, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre. Le gouvernement finalise la réglementation du paquet politique économique. Le gouvernement, jusqu'à la fin d'avril 2016, a émis 12 paquets économiques pour encourager la performance économique et améliorer le fondement de l'économie nationale. Le deuxième paquet de la politique économique se concentre sur les efforts d'accroître les investissements et de créer la facilité de faire des affaires et le pouvoir d'achat des gens. L'objectif des paquets de la politique économique est d'accroître la croissance économique à travers l'augmentation des investissements de l'intérieur et de l'étranger. Le gouvernement a l'intention de changer l'orientation de l'économie à partir de l'économie orientée vers la consommation à l'économie orientée dans la production industrielle des besoins intérieurs et d'exportation. Les principaux instruments sélectionnés sont entre autres de déréglementer qui couvre la révocation, les fusions, l'amélioration des règles existantes et l'élaboration de nouvelles règles. Ces règles peuvent être sous la forme de la réglementation gouvernementale, un décret présidentiel, les instructions du président, le règlement ministériel, tandis qu'au niveau régional, les réglementations du gouvernement central se sont reflétées dans la réglementation locale. Le gouvernement a créé un groupe de travail sous les auspices de l'unité de travail pour achever les règles. Pour se développer de l'industrie nationale, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie, s'efforce constamment à simplifier diverses réglementations. Cela facilite les hommes d'affaires à faire ses affaires en Indonésie. Ce ministère a achevé avec succès 3 réglementations qui ont été définies. Ces réglementations concernent certaines industries qui obtiennent les installations de libre-échange à l'intérieur, les procédures d'octroi de licences d'affaires de la zone industrielle et de licences de l'élargissement de la zone industrielle, ainsi que les directives techniques pour le développement de la zone industrielle. Ces réglementations du ministère de l'Industrie sont comme guide pour les hommes d'affaires des zones industrielles, les entreprises industrielles, le gouvernement et les gouvernements locaux dans le développement et la construction de la zone industrielle. La simplification des réglementations au niveau national devrait être suivie immédiatement par les changements réglementaires au niveau régional afin d'être mis en œuvre par les organismes concernés. avec l'évaluation et la supervision du gouvernement à l'égard du développement des secteurs qui deviennent l'objet des paquets de la politique économique, certainement des effets positifs et négatifs de ces politiques peuvent être connus dès le début. Espérons que la simplification des réglementations pourrait encourager le secteur industriel plus avancé et les hommes d'affaires sont de plus en plus motivés pour créer un nouveau plan d'affaires. Serge Ritor, c'était le commentaire de La Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de La Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer ce soir l'édition du 21 juillet. Nous allons commencer le 21 juillet, la bataille d'Anual. Le Rif est une chaîne de montagnes du Maroc. Depuis 1910, le pays est sous le protectorat des Espagnols. Bien que ceux-ci aient du mal à contrôler les administrés, le 21 juillet 1921, la bataille d'Anual éclate. Les Marocains combattent sous le commandement d'Abdel El Karim. Pourtant, plus nombreux, les Espagnols seront tous de même défaits. Ce qu'il faudra à Abdel El Karim de renforcer son autorité et de fonder dès 1926 la République du Rif. On continue le 21 juillet 1954, fin de la guerre d'Indochine. Ouvert le 21 avril, la conférence de Genève rassemble les représentants de 19 puissances, dont la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'URSS, la Chine, la Corée et le Vietnam. Elle se clôt avec la signature d'accords mettant un terme à la guerre d'Indochine. Autre le cessez-le-feu au Vietnam, adopté sous l'impulsion de Mandé, France, ces accords divisent le pays en deux États. Avec une frontière fixée au 17e parallèle, par ailleurs, ils reconnaissent l'indépendance du Laos et du Cambodge. Entre le 21 juillet 1969, premier pas sur la Lune. À 3h56, heure française, l'astronaute Neil Armstrong qui participe à la mission spatiale Apollo 11 sort du module lunaire Eagle et pose pour la première fois le pied sur la Lune. Il prononce alors une phrase qui restera gravée dans l'histoire, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. L'événement est retransmis dans le monde entier. Des millions de téléspectateurs écoutent ébahis les premières impressions d'Armstrong. Un quart d'heure plus tard, il sera rejoint par son camarade Edwin Buzz Aldrin. Pour les États-Unis, c'est une victoire décisive dans la course l'espace engagée avec l'Union soviétique. Ces auditeurs et auditrices du monde entier, voici l'événement de la semaine ou aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 21 juillet. À demain.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteur, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre. Le développement régional a besoin d'innovation, d'être capable de rivaliser dans la communauté économique d'ASEAN. Le recteur de l'Institut d'administration publique IPDN, Hermaya Suradinata, à un séminaire national, a déclaré la nécessité de l'innovation dans le développement régional. L'innovation est nécessaire pour que le développement, en particulier dans les régions, soit efficace. Ainsi, le fonds de développement peut être utilisé autant que possible. comme affirmé Ermaya Suradinata, étant un conférencier lors d'un séminaire national ayant pour thème l'innovation du gouvernement régional à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN le mardi à Palembang. Selon cet ancien gouverneur de l'Institut de la Défense nationale, avec l'innovation ou pénétration, il est souhaitable que le développement puisse améliorer l'économie de la communauté. Ce séminaire national est une collaboration entre l'Institut d'administration publique, IPDN, et le gouvernement provincial de Sumatra du Sud. Ermaya est sûr qu'avec l'innovation, le développement régional peut être effectué continuellement sans grande capital régional. Comme exemple, Sumatra Sud, étant gouverné par Alex Nourdine, peut construire un nombre de grands projets sans budget régional. Il peut porter le fonds plus de 68 trillions roupias. Cependant, le budget régional n'est que 6 trillions roupias. À présent, Sumatra Sud est en train de développer de divers grands projets avec le budget des trillions roupias. Les développements en cours comprennent les autoroutes Palembang-Indralaya, la voie ferroviaire légère ou LRT et la construction des ponts de Moussi 4 et 6. La majorité des projets de développement est financée par du fonds du gouvernement central et il était à cause de Sumatra du Sud accueillera les Jeux asiatiques 2018. À la même occasion, le gouverneur Alex Nourdine a dit « Sumatra Sud n'était pas de province riche, mais son gouvernement a l'esprit fort pour développer ensemble cette région. Donc, tout doit être uni dans l'esprit et l'air de développer la région et ont toujours regardé au futur à envisager la concurrence qui est de plus en plus serrée. » Chers auditeurs, c'était la mise au point. L'Indonésie et la Belgique continuent à intensifier la coopération dans divers domaines, en particulier dans les domaines social, culturel, politique, économique et touristique. Concernant la Journée nationale belge qui est célébrée chaque année le 21 juillet, l'ambassadeur de Belgique en Indonésie, Patrick Herman, a affirmé à la Radio République Indonésie à Jakarta que la coopération économique entre l'Indonésie et la Belgique sont susceptibles d'augmenter. Même, Patrick est sûr que la valeur des investissements entre les deux pays augmentera.
So the trade is $1.5 billion. Indonesia exports for $1 billion.
La valeur du commerce entre la Belgique et l'Indonésie a atteint 1,5 milliard de dollars. Les exportations d'Indonésie ont atteint 1 milliard de dollars chaque année et sont encore en croissance assez rapide en 2014 et sont en légère croissance en 2015. Mais la valeur de ces exportations est un peu différente dans le commerce international. L'exportation belge a atteint 500 millions de dollars, plus ou moins croissance très lente et pas du tout développée. La tendance est très bonne, surtout pour l'Indonésie, et nous sommes confiants que la tendance va se poursuivre. En outre, Patrick Herman a expliqué que la croissance de l'investissement pour les investisseurs belges qui investissent en Indonésie continue d'augmenter, de sorte que, selon Patrick, l'Indonésie est un pays qui est très significatif pour la Belgique pour un bénéfice mutuel dans l'amélioration de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, a noté 80% du trafic de drogue par mer se produit souvent dans toutes les parties du monde, y compris la zone de l'ASEAN. En Indonésie, la contrebande par voie maritime ne peut pas être séparée de la condition géographique, de sorte que ceux qui appliquent la loi dans le domaine des stupéfiants de l'ASEAN se sont entendus sur la nécessité d'établir le groupe de travail d'interdiction de ports maritimes de l'ASEAN, ASEAN SITF. La première réunion de l'ASEAN SITF est tenue les 20 et 21 juillet 2016 à Batam sur la base du mandat de la réunion d'ASOD et encouragée par les ministres de l'ASEAN en charge de la question des drogues en octobre 2015. Le directeur de l'Agence nationale des drogues, le commissaire général Boudi Waseso, au cours d'une conférence de presse à Batam mercredi, a déclaré que cette réunion a une signification dans le renforcement du secteur d'interdiction du port d'Indonésie à proximité des faits trafic de drogue par voie maritime. La condition géographique d'Indonésie est très préjudiciable à la résistance d'un pays, mais extrêmement rentable pour les villes des stupéfiants, y compris Batam, Medan et Kalimantan Est. Waseso a ajouté, l'Indonésie dans la réunion ASEAN SITF introduisait le concept et le mécanisme d'interdiction globalement en souhaitant que l'Indonésie soit encore modèle pour d'autres pays membres de l'ASEAN. L'Indonésie offre le développement de la nouvelle ville industrielle à l'investisseur chinois China Fortune Land Development, CFLD. Lors d'un entretien avec le ministre de l'Industrie, Saleh Hussein, comme affirmé le directeur général du développement des zones industrielles du ministère de l'Industrie, Imam Haryono, mercredi à Jakarta. Selon Imam, CFLD possède 5 avantages qui peuvent être profités pour développer la nouvelle zone industrielle en Indonésie, à savoir la capitale, l'expérience, la marchandisation, l'accès et l'innovation. Ainsi, le gouvernement va accommoder l'investissement ayant pour la valeur de 100 millions de dollars américains en Indonésie. À partir d'offrir 14 zones industrielles hors de Java étant développées, jusqu'à les zones industrielles plus proches à l'île Java qui commencent d'être développées, par exemple Mesuji, Kendal, JIIPE, Gresik, bien qu'il ne fixe pas encore l'allocation de développement spécifiquement, CFLD s'engage de choisir l'Indonésie comme pays de priorité.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours d'NFF Rice qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Dans un maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Java Est, dont restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix d'Indonésie. Ketupat ou kupat est un plat typique de la fête d'Eid al-Fitr en Indonésie. Ce plat est fait du riz enveloppé dans des feuilles de palmier tissées et puis cuit. Contrairement au ketupat en général qui comprend le riz, ketupat au village Kopan Kidul, Kampung Baru, sous-district Glagah, Banyuwangi, Java Est, fournit réellement l'argent. Ce type de ketupat est connu sous le nom ketupat gunggung ou gunungan. Elle est appelée comme ça parce que les ketupat sont entassés comme une montagne. Ketupat gunggung est habituellement présent dans la tradition gelar pitu, qui se fait habituellement tous les 7 au mois de Sawal, l'année Hijir. Cette tradition est sous la forme de la procession baron, un grand lion, un peluche avec gunungan ketupat. Ketupat qui contient de l'argent provenait de résidents locaux. Chaque famille doit recueillir cette ketupat qui contenait d'argent de 100 000 rupiah jusqu'aux 50 000 rupiah. Ketupat recueilli est arrangé pour rassembler à la montagne, soit gunungan. La tradition gelar pitu commence par une cérémonie mendak tirta ou prendre de l'eau bénite sur le ressort situé par la rivière. Plus tard, l'eau d'eau est utilisée pour laver baron, omprok ou couronne et que Tupac Gungun, avant d'être paradé autour, la procession Tupac Gungun et Baron est commencée à entourer le village. Puis cette procession est arrêtée devant la tombe de Buyut Saridin. Le tombeau accourt aux citoyens comme dernier lieu de repos de l'aîné du village Kopen Kidul. Après avoir prié là, les résidents ont défilé Tupac Gungun vers la mosquée. Ensuite, les résidents locaux ont émis un tchak étant fait de feuilles de bananier contenant Tupac Lodo. À savoir que Tupac a fait un plat d'accompagnement de poulet cuit d'assaisonnement vert qui a été près de la maison. Tupac Lodo a été posé dans une rangée sur la route, le long d'une route principale du village Kopen Kidul. Ensuite, un leader indigène a conduit la prière. Après avoir prié, les résidents locaux et tous les visiteurs mangent la nourriture Tupac Lodo. Après cela, les gens se déplaçaient vers le milieu de la route avant la mosquée, précisément à l'endroit où Gunungan Ketupat est posé. Puis un leader indigène local donnera le signal pour les résidents prêts à se battre Gunungan Ketupat. Les résidents croient qu'ils obtiendront plus de Ketupat, obtiendra la bénédiction mieux à l'avenir. La tradition Glar Pitu se compose de deux mots, à savoir Glar et Pitu. Glar a un saint organisé à lancer, tandis que le mot Pitu signifie pituture ou discours ou sermon. Ainsi, la salutation rituelle Glar Pitu signifie organiser la remarque de Buyut Saridin, l'ancêtre du village Kopen Kidul, qui a fourni ce sermon à la descendance. Un conseil est de faire de ses ascendances mettant œuvre des zomounes, de terres détenues dans leur arrière-cour ou dans le milieu de la route. Cette tradition est aussi lancée comme un acte de gratitude envers le Créateur qui a doté d'abondantes récoltes, ainsi que la tradition de départ des renforts. Bon, ces amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle. Attention, à demain.
Un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans 80 de bon, voici le magazine de couleurs indonésiennes, édition de jeudi. Et dans cette édition de cette soirée, on présente l'information sur sept festivals d'urbain qui animent la conférence des Nations Unies à Surabaya. Assurez-vous que vous serez toujours avec nous dans www.voi.co.id ou bien avec Division Directe par ondes courtes, bien sûr, 9525 kHz. Chers amis, la ville de Surabaya sera l'hôte de la conférence sur l'établissement urbain organisé par les Nations Unies. Cette conférence, appelée le Comité préparatoire de l'habitat pour les Nations Unies, est la troisième, c'est-à-dire la troisième fois tenue dans le monde et la première fois en Indonésie. Cet événement aura lieu le 25 juillet à 27 juillet à Surabaya, en province de Java de l'Est.
Cette réunion sera animée par un certain nombre de l'agenda du jour en vue de la session de l'Organisation des Nations Unies, qui discutera le nouvel ordre du jour pour le nouvel développement urbain. On estime que les participants seront plus de 2000 de 136 pays. Chers amis, pour animer cette rencontre mondiale, la maire de Surabaya fera cet festival. En plus d'animer la conférence internationale, cet festival sera également de promouvoir tous les potentiels de la ville de Surabaya aux milliers de participants qui assisteront à l'événement international. Les sept festivals sont entre autres le Festival international de cerf volant dans la région de Pakuwonville, qui est aussi l'événement ou exposition de cerf volant qui sera suivi par quelques pays comme la Malaisie, Brunei Darussalam, Singapour, la Suède et Macao. Il y a aussi l'atelier pour les élèves à Surabaya, aéromodeling et lavoir de cerf volant. Chers amis, outre le festival de Sefolang, il y a aussi le festival de Tunjungan, celui de mode sur la rue au long de Jalan Tunjungan de 25 jusqu'à 27 juillet 2016. Et il y a aussi le festival de lanterne ou festival de lampes sur la rivière Kalimas. Dans ce festival, il y a le tour de Kalimas, le concours de bateau de dragon, le bateau de décoration et le parade de mode. Il existe aussi le festival de Bungkul, également, qui aura lieu au jardin de Bungkul. Dans cette site, il y a la présentation de jeux traditionnels pour les enfants, le concours de sandales en bois, la musique de croncheon et de jazz, et entre d'autres sites, le festival Jayang Rono dans le parc de Jayang Rono. Il y a aussi le festival du mangrove avec l'écotourisme de Wonorejo. Il y aura l'exposition de batik et mangrove produits, aussi le performance instrument de percussion. Le festival de poisson de Bulak. Et il y aura des événements de concours bateau à voile à sa site, ainsi que le concert de jazz et le festival de gastronomie Bulak Barbecue. Chers amis, dans quatre coins du monde, c'était le magazine de couleur indonésienne édition de jeudi avec le thème de sept festivals d'urbain qui anime la conférence des Nations Unies à la ville de Surabaya en province de Java de l'Est. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ac.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop d'Indonésie qui s'appelle Mayang Sari. Voici la première chanson de Mayang Sari intitulée « Il n'y a plus ». Bonne écoute.
Sia-sia sudah kita jalin cinta.
hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada? Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
Yeah.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cintaku semakin dalam padamu, sejak ku tahu cintamu. Kasihku telah kau bawa dan tunjukkan arti sebuah kesetiaan. Sungguh terlalu rasa cintaku padamu, tak ingin lagi yang lain.
Mes amis, c'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Ce soir, donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie. Rendez-vous, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à l'émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.